Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou et Fanny Cohen-Moreau, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Rémi Sistiaga. Son regard cette semaine sur le livre « Parlons travail » de Philippe Roth, un recueil dans lequel l'écrivain américain rassemble les différentes interviews qu'il a faites de grands écrivains autour du monde. On y retrouve Milan Kundera, Primo Levi, Isaac Bashevis-Singer, Aaron Appelfeld ou encore Edna O'Brien. Les questions de Roth font parfois plus d'une page, rappelant ainsi à quel point il est intelligent face aux êtres admirables qu'il interroge. Et ça fonctionne, les propos tenus de part et d'autre sont brillants, on se délecte de la profondeur et de la délicatesse des idées à lire dans la traduction de José Camoun. Chanteur, auteur et compositeur, notre invité a sorti en septembre dernier l'envoûtant album 3 sur le label 5-7 et donnera des concerts dans les mois qui viennent un peu partout dans l'Hexagone.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Malik Djoudi.
Bonjour à vous.
Êtes-vous content d'avoir été mis au monde ?
Oui, je pense qu'être content d'être ici, surtout parce que c'est cool de rencontrer des humains, je crois.
C'est vrai ?
Ouais, et puis, de voir comment ça se passe, de voir les vagues, non, je suis content, oui.
Ça a toujours été le cas ? Vous avez un peu hésité, vous avez semblé hésitant au début ?
Non, je pense pas être hésitant, peut-être sur d'autres choses, mais non, je suis content d'être au monde, de connaître les gens que je connais, de m'entourer, de faire de la musique, pour ça aussi.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
J'essaye de faire en sorte qu'elle se passe de mieux en mieux. Parfois je me dis que peut-être je suis mon pire ennemi, mais mon meilleur ami. Mais ouais, au fil du temps, je pense que ça se passe de mieux en mieux. J'apprends à vivre avec moi-même.
Pas mal. On vous encourage à ça. Bravo.
Merci.
On vous suivra, vous nous direz comment vous faites après.
Ouais, j'espère que ça sera encore de mieux en mieux.
Oui. Alors, l'un de vos titres, Malik Djoudi, enjoint à dévoiler son point sensible. Alors, j'ose donc une question de vieux journaliste très content de lui de jouer avec les mots avec lesquels tout le monde a déjà joué avant. Une question balourde. Quel est votre point sensible ?
Mon point sensible, c'est mes émotions, je crois. Je peux être très émotif, être sensible, tout simplement hypersensible. Je pense cohabiter avec plusieurs genres, vous voyez. Je pense avoir des sentiments féminins, masculins. C'est ça mes points sensibles. J'ai été éduqué par des femmes et je pense avoir pas mal de côté féminin. C'est peut-être ça mon point sensible.
C'est l'inattendu, en tout cas, qui vous donne envie de vous lever. Est-ce que vous partez du principe que tout peut arriver ?
Bien sûr.
Ah oui ?
Oui.
C'est assez optimiste, ça ?
Ouais, ça peut être pessimiste aussi.
Ouais, c'est vrai. Il y a aussi ce champ des possibles ouvert, c'est-à-dire que parfois, quand on va pas très bien, on a l'impression que le champ des possibles est très limité, que rien ne peut arriver, qu'on sera pas surpris, qu'il y a pas d'inattendu, que tout est déterminé.
Complètement. Après, moi je me dis que tout est possible, vraiment. Le matin, je me lève et j'essaye de me mettre en jambe très rapidement, parce que si je reste trop poli, je peux cogiter très rapidement aussi. Et j'aime bien cette idée de se lever, peut-être parfois de faire des choses différentes, de pas rentrer dans une routine. Et j'ai la chance de faire de la musique, parce que la musique c'est aussi l'inattendu, c'est quand on part en composition comme ça, il y a des notes qui peuvent arriver, c'est inattendu, et la fin de la journée est inattendue, parce qu'on a créé quelque chose, la création c'est quand même inattendu.
Par exemple le morceau « La douleur », il paraît qu'il vous a été inspiré par un mal de dos terrible. Et en fait, quand j'écoutais ce morceau, j'avais vraiment l'impression d'une sorte d'expérimentation poétique, où vous aviez vécu une expérience terrible et vous en faisiez un peu de beauté.
Oh, merci pour cette description. Oui, c'est. Je pense avoir personnifié ce mal de dos là, que la douleur c'était un corps étranger, enfin surtout le dos, cette douleur, c'était un corps étranger qui était là, qui n'arrivait pas à partir. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'était une époque où j'allais bien et les maux de dos c'est souvent relié à la tête quand même. Et pour exorciser un peu cette douleur, je pense qu'il fallait faire une chanson. Mais pour la faire passer, il fallait aller à l'hôpital.
Ah. Mais c'est résolu un peu ?
Oui, complètement, j'espère. Mais oui, ça va beaucoup mieux à ce niveau-là.
Est-ce que vous avez vécu beaucoup de choses inattendues, Malik Djoudi ?
Oui, pas mal de choses inattendues, parce que je pense avoir eu beaucoup de chance dans cette vie, quand même. Je fais le métier que je rêvais de faire quand j'étais petit. Et après, j'ai eu beaucoup d'échecs qui étaient complètement inattendus. Et beaucoup d'amour, beaucoup de déceptions amoureuses, beaucoup de rencontres inattendues. Mais je vis vraiment au jour le jour, je planifie jamais rien, je déteste planifier les choses. J'adore partir en voyage et ne rien planifier, ne pas savoir où je vais. Mais ouais, et pour moi, l'inattendu aussi, c'est un refus de grandir peut-être aussi. Mais voilà, j'aime beaucoup l'inattendu.
Bon, moi, je vais quand même dire aux auditeurs ce qui vous attend, parce que ici, on aime les aguiches, et aguiches, c'est quand même plus joli que le mot teaser. Dans un instant, il sera entre autres question d'un collectif, du Vietnam, de Philippe Zdar, d'Ernest Hemingway, de Solidarité, d'une mangeuse de terre, de Viviane Mayer, d'écoute et de traversée. Mais d'abord, un titre de votre dernier album, Malik Djoudi, Vertige.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Vertige sur l'album 3 de Malik Djoudi, avec nous en studio. Introduisons musicalement ce que vous aimeriez accroître dans notre environnement. Seeger, Solidarity Forever, pour évoquer l'idée de plus de solidarité dans la société. Comment aimeriez-vous que ça se manifeste, Malik Djoudi ?
Tout simplement de faire attention aux personnes qui sont à côté de nous, qu'on croise dans la rue, les gens qui galèrent, voilà, les aider un peu plus, avoir un peu plus de chaleur humaine, avoir moins de gens hautains, moins de télévision, qu'on nous éduque moins, avoir des bêtises. Je me dis sincèrement, vous voyez, je regarde la télé quand je dors à l'hôtel, parfois comme ça, quand je m'endors. Il me dit que si je voyais la télé tous les jours, là, comme ça, mais qu'est-ce que je serais débile. Ah, c'est vrai. Non, puis tout ça, je trouve que nos sociétés se dirigent vers quelque chose de très étrange, et ça change vraiment brusquement, très rapidement. Et plus ça va, plus je me sens pas bien, quoi, dans les sociétés dans lesquelles on évolue. Et donc plus de solidarité ferait peut-être en sorte qu'on se sente un peu mieux.
Et pourtant, tout nous pousse à nous retrancher sur nous-mêmes. Mmh. Alors que des études montrent que aider autrui participerait activement au bien-être. J'emploie pas le mot bonheur parce que j'y crois pas terriblement, mais bien-être, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on est, nous sommes des animaux sociaux et on est fait pour collaborer.
Mmh. Tout simplement, oui.
Et justement, en parlant de collaboration, Malik Djoudi, vous aviez travaillé assez seul sur les deux précédents albums. Et puis pour ce troisième album, vous avez fait confiance au réalisateur Renaud Létan.
Mmh.
Et ensuite, pour les concerts, ça a changé aussi. Vous avez, après une grande période de solitude, vous avez ressenti le besoin de vous entourer.
Ouais. Oui, parce que à un moment donné, j'ai terminé vraiment tout seul, quoi. Non, j'aime beaucoup, moi, cette période où je compose, je travaille, je vais tout seul, mais j'ai vu quelqu'un, là, qui m'a dit, écoutez, il faut arrêter, peut-être, c'est un refuge. Et ça m'a fait un peu tilt. À un moment donné, je me suis dit, il faut que j'aille rencontrer les gens, les voir. Et c'est marrant parce que ces moments en studio où je suis tout seul, c'est vraiment l'endroit où je me sens le moins seul au monde. Mais il faut être quand même apprendre à être un peu plus sociable, et la musique, ça se partage. Voilà. Et ça fait du bien, quoi. Ça me fait du bien de faire confiance à d'autres gens. Parce que parfois, j'ai du mal à faire confiance, mais plus ça va, plus je fais confiance aux gens aujourd'hui.
Et ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire, ce sentiment ? De vouloir s'entourer, justement ?
Non, ça n'a rien à voir. La crise sanitaire a fait que j'aime bien sortir, j'aime bien voir les choses, j'aime bien voir les gens, je suis un peu tactile et tout ça, j'aime bien la chaleur humaine, quoi. Et c'est vrai que la crise sanitaire a fait que on était un peu plus encore plus sur nous-mêmes. Donc j'essaye de faire en sorte que mon travail, que le partager le plus en plus avec les autres, quoi.
Je vous ai demandé ce qui vous faisait vous impliquer, Malik Djoudi, et vous avez parlé d'injustice. Alors, ça vous fait vous impliquer comment ? Est-ce que vous êtes du genre à prendre la défense de choses, d'être, d'idées ?
Oui, ça m'arrive et ça m'étonne aussi parfois, parce que je peux être brusque dans mes propos. Mais je déteste l'injustice, je déteste que des gens se sentent supérieurs à d'autres, ou ouais, je déteste qu'on soit dédaigneux envers certaines personnes, et j'aime pas l'injustice, tout simplement.
D'accord. Vous êtes, mais c'est bien de le dire, parce que en fait les choses les plus simples paraissent mièvres parfois, alors qu'en fait elles le sont pas, c'est qu'elles sont tellement évidentes.
Exactement.
Vous êtes engagé dans le collectif On Remet le Son.
Mm-hmm.
Sur la chaîne en plus, enfin pas que sur la chaîne, puisque c'était Hyper Nuit le 23 janvier 2021. 100 artistes de 21h à 3h du matin en direct du studio 104 de la Maison de la Radio, puis au Rex, diffusés simultanément sur 5 radios du groupe. 6 heures de live orchestrés par Juliette Armanet et vous, Malik Djoudi.
Et Didier Varro aussi.
Et Didier Varro, bien sûr. Et c'était quoi l'objectif ?
C'était en pleine crise sanitaire, on n'avait plus le droit de jouer, de... Moi, sincèrement, j'avais peur de perdre d'exercer mon métier. Et j'étais à Paris, on était tous dans le métro, voilà, et on pouvait plus faire de concerts, quoi. Alors pour moi, ça, c'était complètement injuste. Donc, on était, Juliette Armanet et moi, on donnait un petit concert dans le sud de la France, et on a discuté, elle et moi, pour se dire, il faut qu'on se bouge les fesses un peu, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Et après, avec Didier Varro et nos entourages, on a monté ce collectif, On Remet le Son, et grâce à Radio France, à Didier Varro, on a monté cette soirée qui est Hyper Nuit, et voilà, on a convié des artistes de tout genre à jouer pendant une petite nuit, et on appelait ça Hyper Nuit.
Mmh.
morceau de 1970, Moi Gat Moi, par la chanteuse vietnamienne Hong Wan. Pépite communiquée par un auditeur que je remercie pour introduire l'un des événements qui a changé votre rapport au monde, Malik Judy. Un voyage seul au Vietnam après le départ de votre grand-mère. Je crois que votre mère est vietnamo-algérienne.
C'est ça.
Et en 2015 ou en 2016, vous avez fait un voyage au Vietnam pour disperser les cendres de votre grand-mère, une vietnamienne arrivée en France à 16 ans en pleine guerre d'Indochine, pilier de la famille.
Ouais, complètement. Pilier de la famille, qui était mon, elle vietnamienne et mon grand-père était algérien. Et ouais, eux deux étaient les piliers de la famille. Ouais. Moi, j'ai grandi avec la famille de ma mère. Et j'ai été éduqué un peu par mes grands-parents. Ma grand-mère qui parlait pas bien français et mon grand-père algérien, voilà, qui parlait français lui. Et je grandissais un peu dans le sud de la France et en France. Mais éduqué par un Algérien et une Vietnamienne. Et donc avec des cultures complètement différentes et une vision du monde complètement différente. Après, mon grand-père est parti quand j'avais 10 ans et je voyais ma grand-mère assez souvent. Et c'était le pilier de la famille. Ma mère a une grande famille de 7 enfants. Et ma grand-mère, bouddhiste, avait vraiment une vision du monde complètement différente. Elle connaissait pas grand-chose à l'histoire de la France, à qui était notre président. Et moi, j'aimais beaucoup ça parce qu'elle m'apprenait beaucoup d'autres choses. Elle cuisinait très bien aussi. Et voilà, en 2015, elle est partie. J'avais l'impression d'avoir perdu tous mes repères. Parce qu'elle me montrait que d'autres racines, un autre socle, quoi, que je ne voyais nulle part ailleurs. Et donc elle est partie et je me sentais complètement perdu parce que j'avais perdu ma grand-mère, quoi. Et à ce moment-là, je savais plus trop quoi faire. J'avais 35 ans. Et je voulais toujours faire de la musique, mais je trouvais aucune voix, rien ne m'intéressait vraiment, et parce que j'avais en tête de faire mon projet sous le nom de Malik Judy. Et voilà, j'ai fait ce voyage et pendant un mois et demi, j'ai pris mon sac à dos sans trop savoir où aller. Juste, mon point de chute était vraiment de pouvoir aller dans son village et de disperser ses cendres. Et je suis arrivé au sud du Vietnam et je suis remonté tout au nord, au sud de Hanoï, et j'ai rencontré plein de gens et j'ai vu des gens qui ressemblaient à ma grand-mère, qui avaient le même sourire, et j'ai rencontré sa cuisine, plein de choses, et ça m'a donné beaucoup de confiance. Je me souviens de soirées où je rencontrais des Vietnamiens qui ne parlaient pas anglais, qui ne parlaient pas français, moi ne parlant pas vietnamien, on passait nos soirées à dessiner pour se parler. C'était quand même assez génial. Et voilà, je suis revenu en me disant que j'étais capable de faire ça, de partir seul avec mon sac à dos dans un pays que je ne connaissais pas, mais je connaissais quelques codes. Et je suis revenu chez moi et c'est là où j'ai posé mes premiers accords, mes premiers mots en français.
Parce qu'avant, vous n'aimiez pas votre voix en français, vous chantiez en anglais.
Exactement. Je trouvais que j'avais une voix trop variétée.
Oh.
Et voilà, je me suis fait confiance à partir de ce moment-là. Et aujourd'hui, je suis avec vous ici.
Moi, il y a un truc que je trouve magique, c'est les concerts, les raves, les boîtes de nuit, les trucs comme ça, parce qu'on se retrouve avec 300 personnes, 500 personnes, 8000 personnes, 2000 personnes à vivre exactement la même chose au même moment, ce qui est hyper difficile avec un livre. Bon, ça peut arriver dans les salles de cinéma, mais... Et j'ai envie un bon son, c'est qu'on puisse ressentir tous quelque chose en même temps, qu'il y ait une émotion très forte, et en même temps qu'on en prenne quand même un coup dans le ventre avec des bonnes basses, des bonnes aigus, et puis voilà.
Interview du musicien et producteur disparu en 2019, Philippe Sdar, sur la chaîne au micro d'Augustin Trapenard dans Boomerang, mêlé au premier single du groupe Cassius qu'il formait avec Hubert Blanc-Francard. Il avait mixé, Malik Judy, votre morceau à tes côtés avec Étienne Dao sur l'album Tempérament, et vous aviez sa photo en studio pendant la composition du dernier album avec celle de Christophe. Je crois que vous auriez aimé qu'il réalise un de vos disques à venir.
Ouais, complètement, on en avait parlé, lui et moi. Philippe Sdar, c'est quand j'ai 20 ans, je vois son nom sur pas mal de disques et tout ça. Et je lis quelques interviews, je le vois en vidéo, je me dis waouh, ce mec est génial, et puis il a une vision des choses qui est différente d'une industrie française qui voilà, qui, parfois j'aime bien mais parfois j'aime pas, et donc ma quête c'était de rencontrer ce monsieur, quoi. Une fois quand j'avais 30 ans, je me suis posté 3 heures devant son studio rue des Martyrs en espérant qu'il sorte. Il est sorti, hein. Il est sorti, je l'ai rencontré, on a discuté, il m'a dit j'ai pas le temps, je reviens de New York, tout ça, je fais ok, il me donne son mail, je lui envoie des morceaux, il me fait ok, il écoute, il me dit écoute, j'ai vraiment pas le temps, j'adore tes morceaux, mais voilà, je te propose de te faire rencontrer cet ingénieur du son, ok, pas de souci. Bon. Mais je ne travaille pas encore avec lui, et un jour il faisait un stage pendant 10 jours dans le sud de la France, dans un studio à Saint-Rémy-de-Provence. Donc je me suis inscrit au stage, c'était pour des ingénieurs du son, moi je ne suis pas ingénieur du son.
Ah oui, comme vous avez fait le stalker en fait, Malik Judy.
Exactement. Et voilà, j'ai eu la chance quand même, ils m'ont accepté, et voilà, on a passé 10 jours extraordinaires, on était plusieurs producteurs du monde entier. Et donc on a appris à se rencontrer, et on s'est liés d'amitié à ce moment-là. Et on habitait le même quartier dans le 18e après, et vraiment ça devenait un ami, quoi. Je passais au studio le voir, et puis un jour j'enregistre avec Étienne Dao qui me dit écoute, moi tu sais, Philippe Sdar, c'est mon frère, je l'ai hébergé quand il arrive à Paris. Je fais non, mais c'est pas possible, c'est super. Donc j'ai écrit à Philippe Sdar en lui disant écoute, j'ai écrit un morceau avec Étienne Dao, la nuit je le mixe. Alors, je fais avec plaisir, et voilà, de fil en aiguille, on devenait vraiment ami, quoi. Et puis surtout, c'est sa vision des choses. Je me sentais proche de lui parce que il avait un amour du son, un amour de la musique. Il me dit, pour le deuxième album que j'ai fait, il me dit, tu sais, t'as fait ton album est super, mais ça marchera pas, quoi. Parce qu'il est bien. Enfin voilà, c'est la petite histoire. Et voilà, quand il est parti, pareil, ça m'a fait un vide parce que j'avais l'impression d'avoir rencontré mon mentor, quoi. Mm. Quelqu'un qui m'a donné beaucoup de confiance et en qui j'avais vraiment confiance. Et quand il est parti, voilà, ça fait un vide. Et voilà, j'aimerais vraiment. Mais j'y pense souvent, vous voyez, quand j'ai un petit coup de mou en musique et tout, je pense souvent à ce qu'il aurait pu me dire. Ouais, s'il est encore là, quand il est encore là pour nous.
Il y a eu une autre rencontre décisive pour vous, Malik Judy, c'est votre maître d'école.
Ouais. Mon maître d'école en CM1, dans une petite école de Lusignan, village de 2000 habitants. Ouais, c'est parce que tous les matins on chantait du Brassens, du Brel pendant 2 heures. Il prenait sa guitare, on commençait la semaine comme ça, et il me prenait un peu comme lead, vous voyez, chanteur lead pour voilà, animer tout ça. Et bon, pareil, beaucoup de confiance, beaucoup à me dire il faut, vas-y, fais de la musique, apprends-la. Bon, je l'ai jamais apprise, quoi, mais elle m'a donné beaucoup de confiance à apprendre des chansons, tout simplement, et à les chanter. Et après, ça a été, excusez-moi, il était animateur dans des colos, donc je le suivais dans des colos. Après, j'ai été moniteur grâce à lui dans des colos. Voilà, je l'ai connu jusqu'à 25 ans. Après, il est parti, lui, pareil. Mais voilà, beaucoup de confiance. Moi, j'aime beaucoup les gens qui vous donnent de la confiance, qui vous élèvent, et j'aime bien le faire aussi.
Mais ce qui est beau, Malik Judy, c'est que quand il y a des gens qui vous inspirent comme ça, vous allez les voir, vous faites le geste d'aller vers eux. Parfois, vous les suivez comme un inquiétant assassin dans la rue, vous attendez qu'ils sortent. Mais vous suivez les gens qui vous communiquent ça, c'est beau.
Ouais, ouais, ouais.
Vous le suiviez dans des colos
Ah oui, parce que c'est... J'aime beaucoup, moi, vous savez, la bienveillance. La bienveillance, et la bienveillance, ça ne donne pas à tout le monde, et ça se prend pas à tout. Enfin voilà. Et j'ai la chance de ça. Je pense palper un peu la bienveillance chez les gens, et quand je la sens, je vais la chercher pour la recevoir, mais aussi pour la donner. Après, depuis quelques années, comme ça, je vais chercher des gens qui, je sais, sont bienveillants, mais aussi des gens qui sont talentueux, je trouve, pour ma part. Et à chaque fois, ça se passe bien, et ça se passe naturellement surtout.
Alors là, j'aimerais qu'on parle d'un peintre décrit par Constable et Delacroix comme un homme d'aspect négligé, aux manières un peu brutales, très peu sociable, un peu le contraire, solitaire. C'est du peintre et graveur britannique, précurseur de l'impressionnisme, William Turner. Et vous l'avez choisi aussi dans les artistes qui ont changé votre rapport au monde, Malik Judy.
C'est dans les artistes, ouais, qui a changé mon rapport au monde, c'est ma Turner. C'est là, à ce moment-là, j'ai 15 ans. Je vois ses œuvres à la Tate moderne, je crois, pour un voyage linguistique. Et c'est ma première rencontre avec une œuvre d'art. Et c'est la première fois où je suis ébloui par une œuvre d'art, par les couleurs, par le détail. Et voilà, c'est la première fois que je vois ça. Et, alors que j'en avais vu d'autres peintures, d'autres sculptures. Mais c'est le premier déclic. Et à partir de ce moment-là, ça m'a fait... Je suis pas un grand expert en peinture ou quoi, mais ça a été un déclic et ça, c'est la première fois que je me suis dit, ok, ça c'est une œuvre d'art pour moi. Mais c'est surtout ce qui, voilà, c'est les couleurs qui m'ont sauté aux yeux.
Royal Morning Blue de Damon Albarn dans L'Embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Malik Djoudi.
Il faisait bon au soleil, sur la terrasse. « Santiago, » dit le gamin. « Quoi ?» dit le vieux. Il tenait son verre à la main et songeait aux jours anciens. « Veux-tu que j'aille te pêcher des sardines pour demain ?»«
Non !»«
Va plutôt jouer au baseball. Je peux encore ramer et Rogelio lancera le filet. »« J'aimerais bien pourtant, comme j'ai plus le droit de pêcher avec toi, alors je cherche à t'aider autrement. » « Tu m'as payé à boire, » dit le vieux, « t'es déjà un homme. »« Quel âge que j'avais quand tu m'as emmené dans un bateau pour la première fois ?»« T'avais 5 ans et t'as bien failli y rester. »« Tu te rappelles quand j'ai amené le poisson sans l'avoir assez fatigué et qu'il a manqué de démolir toute la boutique ?»
Le comédien Jacques Bonafé lit un extrait du « Vieil homme et la mère » d'Ernest Hemingway, paru en 52, livre que vous conseillez, Malik Djoudi, pour être armé dans l'existence. Pourquoi ?
Parce que pour... je trouve que c'est... Le pêcheur, la mer, la pêche, c'est une belle... dans ce livre, c'est une métaphore de la vie.
Vous pouvez raconter pour les auditeurs qui ne l'auraient pas lu en quoi ça consiste, c'est un combat entre un pêcheur et un...
Oui, tout simplement, c'est un vieux pêcheur qui depuis beaucoup de jours n'arrive plus à avoir un poisson et qui normalement pêche avec un autre jeune pêcheur, mais là il part tout seul en mer. Il part très loin au large et il arrive, il pêche un énorme poisson pendant des jours. Il ne voit pas son poisson et c'est très précis dans toute sa préparation, dans tout ce qui traverse, qui parfois est horrible, et le pauvre vieil homme, il arrive à voir ce poisson, mais il revient. Enfin, je ne dis pas la suite, mais. C'est pour moi, c'est la vie, quoi. C'est la vie, c'est la vie, et c'est vague, et c'est la vie. On a tous une quête, je crois, et qui parfois est difficile, et qui parfois nous ramène beaucoup de joie, mais qui parfois est difficile. On tombe, et les échecs nous permettent de nous relever. Enfin, moi, c'est ma vision.
Mais justement, parce que c'est un livre sur l'échec, le ratage. Tout à l'heure, vous parliez aussi de l'échec, Malik Djoudi. C'est un livre qui permet aussi de relativiser, dans une certaine mesure, les échecs, puisqu'il y a des choses qui pourraient mettre à terre, vraiment atterrer littéralement certains hommes, mais d'autres se relèvent. C'est le cas dans le livre, je dirais pas qui, comment, pourquoi, ouais. Mais ça pourrait ravager, il y a des événements qui pourraient ravager certains des protagonistes, et qui en fait sont relativisés assez aisément, simplement, humblement.
Oui, parce que tout simplement, il faut, c'est sa quête, c'est ce poisson, c'est... Moi, je pourrais le comparer à une chanson. Une chanson, c'est parfois douloureux, c'est tellement difficile. Parfois, ça nous ramène beaucoup de bonheur, mais quand on a envie de finir cette chanson, on peut la finir et peut-être elle ne sortira jamais. Et pourtant, on s'est battu avec cette chanson et ça a été un échec, mais cet échec, encore une fois, nous permettra de nous relever.
Malik Djoudi, on vous a demandé quelque chose de beau à recommander aux auditeurs. De clavicle de la chanteuse Earth Eater, mangeuse de terre en français, new-yorkaise multi-instrumentiste, productrice, compositrice et chanteuse, née en 1989. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose un peu en commun avec vous, Malik Djoudi, pas du tout dans le genre de la musique, mais dans le timbre, dans la façon de susurrer les mots. Ça vous choque ?
Pas du tout, merci de le dire. Merci de comparer ça.
Bah oui.
Ouais, je suis complètement d'accord avec vous, Eva.
Chouette.
Non, mais moi, je suis très inspiré par des chanteuses comme Citer. Ça me fait penser aussi à la chanteuse de Blonde Redhead, ouais, Kazuma Kino, qui susurre aussi comme ça. Moi, je suis inspiré par ces voix féminines et qui susurrent mélancoliques et tout. Et mais la découverte de cette chanteuse est arrivée à un moment où je trouvais qu'on avait trop, on gavait trop de choses super commerciales.
Très spectaculaires dans leur production, avec des gros effets.
Gros effets, bien pompiers, bien tubesques. Et j'avais peur que les belles choses disparaissent. Vraiment, sincèrement, ça me rendait triste. Je regardais les choses qui sortaient, j'étais là, non, il y avait rien qui me parlait, quoi. Et une amie me dit, tiens, il y a Earth Eater qui passe en concert à Paris. Ça allait vraiment, je vous promets, ça allait pas très bien parce que je voyais plus de belles choses en musique, quoi. Et je suis allé la voir et ça m'a rempli le cœur pendant une semaine. Et ça me le remplit encore aujourd'hui. Et je me suis dit, ok, ça existe encore, il y a encore de la place, et donc il faut encore faire les choses, il faut travailler pour ça. Résiste.
Oui. Dans une interview, Malik Djoudi, j'ai vu que un de vos albums, l'un de vos choix absolus, c'était To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Est-ce que vos goûts ont évolué ?
Évolué, non, je pense pas trop.
Après, vous l'aimez toujours autant ?
Bien sûr, je l'aime toujours autant. Après, je l'aime bien avec d'autres, vous voyez. À la question, vous partiriez avec quel CD ? Je partirais pas peut-être avec celui-là, je partirais certainement avec la balade de Melody Nelson, ouais. Peut-être. Mais ouais, j'aime beaucoup ça, vous savez, j'aime bien l'éclectisme des choix, des choses. Donc ce disque en hip-hop, ouais, j'adore, mais j'aimerais le mêler avec ce disque de Earth Eater, avec du Ravel ou du Satie, puis quelques disques de jazz, voilà. Mais ouais, quand j'aime quelque chose, je crois que je l'aime à vie.
Il y a trois collaborations, d'ailleurs, en parlant d'éclectisme sur votre dernier album, Malik Djoudi. Lala Ace, Philippe Catherine et Isabelle Adjani.
Ouais.
Voilà, non, c'est tout. Il n'y a pas de commentaire à faire. Je faisais mon Wikipéva. Voilà.
Wikipéva, pas mal.
Ouais. Alors, une autre belle chose à partager avec les auditeurs, Malik Djoudi, c'est l'exposition des photos de l'ancienne gouvernante américaine Viviane Mayer au musée du Luxembourg à Paris jusqu'au 22 janvier 2022. Il reste donc 6 jours pour la voir.
Non, extraordinaire. Extraordinaire, ouais, non, mais magnifique. Je suis pas, vous voyez, c'est pareil aussi. Je suis un amateur en photo. Moi, je regarde les photos. J'aime bien les photos, comme ça. Pas un professionnel, un expert non plus. Mais oui, ça m'a touché. Et c'est surtout son histoire qui m'a touché. Et c'est comment pouvoir faire des, parce que. Elle n'a jamais exposé de son vivant, personne n'a jamais vu ses photos. On découvre des négatifs, voilà, elle était babysitter, on découvre des négatifs.
120 000 images.
120 000 images, incroyable. Et voilà, tous ces portraits sont magnifiques. Il y avait qu'elle qui pouvait photographier ça comme ça, dans ces décors new-yorkais ou à Chicago, aux États-Unis. Et on voit, je crois, que c'est une autodidacte, je pense. Et ouais, c'est magnifique, rien à dire de plus.
Faut ça juste vous touche, voir. Ça aussi, le fait qu'elle soit autodidacte, Malik Djoudi?
Oui, parce que je pense que c'est un ressentiment, comment voir la chose. Elle ne calcule pas la chose, c'est juste un déclic de sa part et c'est sa vision des choses. Et elle rend belle les choses. Ouais, waouh.
Oui, on se met à nouveau sur le plan de la sensibilité.
Complètement.
Et pas de l'intellect.
Exactement, et moi c'est vraiment ma vision des choses pour l'art, entre guillemets. Et c'est comment procurer des émotions chez les uns, chez les autres, et comment en procurer chez soi-même.
Et allez voir l'exposition, il reste quelques jours pour la voir, et si vous ne pouvez pas, il y a un très beau catalogue d'exposition et aussi un très bon article d'Arnaud Jamin sur le site de Diacritique.
Il est long.
Le chemin du Canadien Jacques Michel pour aborder, Malik Djoudi, votre réponse à la question qu'aimeriez-vous accomplir au cours de votre vie ? Vous avez répondu la traversée du chemin en ne blessant personne et trouver l'apaisement. Vous avez blessé beaucoup de gens ?
Peut-être un peu, oui. Peut-être.
Je crois que tous, quand on vit et qu'on interagit.
Oui, c'est sûr. Après, c'était pas ma volonté. Mais bien sûr, j'ai blessé beaucoup de gens et de les avoir blessés, ça m'a beaucoup blessé. Oui, c'est, puis sans blesser les gens. Enfin, mais voilà, c'est pas du tout ma volonté de blesser les gens. Et plus ça va, plus je me protège pour ne pas les blesser. Vous voyez, par exemple, je vais pas me mettre dans des histoires parce que j'ai peur de blesser les gens. Quoi. Je veux pas.
Dans des histoires, quelles qu'elles soient.
Ouais, surtout des histoires d'amour. Quoi.
Vous n'y allez pas dans aucune histoire d'amour.
Non, si, quand je sens.
Dans certaines, vous sentez certaines, il va y avoir du grabuge.
Ouais. Ou des histoires professionnelles aussi, où je sais que ça va pas le faire, je vais peut-être pas essayer parce que ça va peut-être blesser les gens. Mais moi c'est une des choses que je déteste le plus, c'est blesser les gens. Et,
Mais ça ressemble à de la sagesse, ça c'est quelque chose qui s'acquiert à force d'expérience. Mm-hmm. Au début on est un peu une tête brûlée, puis après à force on sait là où ça fait mal, là où faut se retenir un peu, là où c'est pas une bonne motivation qui nous anime.
Non, oui c'est ça, mais j'espère que ça, ouais, c'est de la sagesse, ouais. Mais plus ça va dans le temps, plus j'apprends à être sage. Parfois, je m'emmerde à être trop sage, quoi.
Oui.
Mais aussi accomplir aussi. J'ai eu la réponse à la question pourquoi je faisais ce métier un peu. Je crois aussi. Ça me fait du bien. Mais bon, ça va là. C'est comme ça. Mais c'est de faire du bien aux autres aussi. Je crois. Puis moi, de faire du bien aux autres, c'est peut-être banal ce que je vous dis, mais c'est cool. C'est cool, je peux vivre comme ça, faire du bien aux autres.
C'est nécessaire, en tout
ouais,
cas.
Ouais, puis ça rend. Puis ça nous remplit, quoi. Ça nous remplit.
Malik Djoudi, est-ce que vous êtes loin de l'apaisement?
Parfois, je flirte avec. J'arrive jamais à le loquer, vous voyez. J'arrive toujours à m'en approcher un petit peu, mais je me bats un peu avec ça, mais c'est une quête, hein, c'est une quête.
Comme le poisson dans Le Vieil Homme et la Mer.
Ouais, complètement. Mais vous voyez, là, je suis apaisé, ça va.
Donc, c'est vrai cool.
Ouais,
c'est parce que j'ai mis de la drogue dans votre bouteille d'eau.
Cool. C'est bien ce que je me dis.
C'est mon secret pour faire de bonnes émissions.
Super. Mais parfois je suis apaisé. Ça arrive par exemple quand je fais des concerts, je suis bien apaisé.
Ou après?
Un peu avant.
Ah oui, avant?
Un peu avant.
Ah, c'est surprenant.
Ouais, parce que je suis avec mon équipe et puis on est bienveillants les uns envers les autres. Pendant, parce que j'oublie tout. Et après, parce que. Enfin, pas tout le temps après, mais quand c'est bien passé, on est. Ouais, une sorte d'apaisement. Un apaisement aussi quand. Quand je termine une chanson, je suis apaisé parce que c'est que la création de quelque chose. On a fait naître quelque chose. Et je suis apaisé quand on fait du bien aux autres, on est apaisé aussi. Mais j'espère d'être de plus en plus apaisé.
Malik Djoudi, je vous ai demandé ce que vous aviez raté et vous avez répondu assez sincèrement. Pour le moment, ma vie de famille.
Ouais. Ouais, ma vie de famille. Ouais. J'ai connu l'amour à maintes reprises, pas beaucoup, mais longtemps. Mais il y a j'ai toujours eu en tête de faire mon métier, tout ça, la tête dans le guidon un peu. Toujours à penser à ça, c'est quelque chose de chez moi, c'est sacré. J'ai toujours la tête en musique, toujours à penser à ça. Ouais, j'ai terminé un album là, mais je pense à la suite. Et j'ai envie, je vais en studio, je vis pour ça, quoi.
Ce n'est pas conciliable les deux.
Maintenant ça va l'être, j'espère, parce que je vais faire plus de place pour ça, chercher l'équilibre. C'est un peu le vélo dans ma tête, c'est toujours ça. Ça a pris beaucoup de place, beaucoup trop de place. Et j'espère prendre plus le temps à faire autre chose aussi. Mais je ferai attention la prochaine fois.
La prochaine fois. Malik Djoudi, on arrive à la fin de l'émission et à l'engagement que les invités acceptent de prendre à la sortie de l'émission. Et le vôtre, c'est d'être plus à l'écoute de ce qui vous entoure. Par exemple, quel sera votre premier pas dans cette direction?
Regardez ce qui se passe autour de moi.
Qu'est-ce qui se passe là, par exemple?
Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens derrière nous.
Ouais, en cabine. Ils nous font coucou.
On est en train de se parler.
Ouais.
Et donc être là, être présent tout simplement, être disponible. Et voilà, le premier pas, quand je sortirai, bah, j'essaierai d'avoir encore d'avoir le sourire, et puis de faire attention à ce qui se passe, et s'il y a quelqu'un qui m'offre quelque chose, ne serait-ce qu'un sourire ou une envie de discuter, j'irai. Voilà, d'être plus présent, tout simplement.
Vous ne le faites pas déjà spontanément ?
Si, j'essaye, mais moi je suis souvent quand même un peu parfois, mais je travaille là-dessus, mais un peu trop dans ma tête, vous voyez.
Ah oui ?
Ouais.
Non, je ne vois pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu partager un peu ce qu'il y avait dans votre tête, Malik Djoudi.
Merci à vous, Eva.
Votre dernier album, 3, est sorti sur le label 5-7 et vous serez en tournée dans de nombreux endroits. Quelques dates, le 21 janvier à Nancy, le 27 à Orléans, le 28 à Hérouville, le 4 février à Rézé, le 5 à Limoges. D'autres dates sont à retrouver sur votre site malikdjoudi.com et vous serez cet été, je le signale, au Francopholis de La Rochelle et à Rock en Seine à Paris. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux où nous vivons quand nous ne sommes pas à la radio. J'espère que votre humeur aura l'éclat du regard d'un millefeuille grivois à monocle. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10. Thank you.